Pripyat se trouve à moins de 3 km du réacteur accidenté. C'était une ville de 48 000 habitants, construite spécialement pour les ouvriers de la centrale. L'accident s'est produit dans la nuit. Au matin, la population ne s'est aperçue d'aucune anomalie. Et les habitants de Pripyat commencent leur journée comme si de rien n'était. La radioactivité est mesurée, mais aucun ordre d'évacuation n'est lancé. Les taches blanches, sur l'image, sont provoquées par la radioactivité qui traverse la chambre noire de la caméra et voile la pellicule. Elles indiquent la violence des rayonnements qui s'abattent sur la ville. L'ordre d'évacuer a été donné 2 jours après l'accident. Le responsable des autorités s'en est expliqué plus tard. Les instructions précises avaient été annoncées: fermez les fenêtres, restez dans les maisons. Par conséquent, pour nous, l'irradiation de la population a été négligeable. Une légèreté coupable.
RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent. 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, les effets de cette légèreté coupable se font encore ressentir en Ukraine, en Russie, en Biélorussie. Mais ces trois pays les plus touchés ne sont malheureusement pas les seuls concernés. Car le nuage radioactif a également survolé l'Europe au gré des vents et d'une météo défavorable. Non, le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière française comme le prétendaient à l'époque les autorités qui ont mis 12 jours à réagir, 12 jours pendant lesquels les services de l'État ont assuré à la population qu'elle ne risquait rien et qu'ils n'ont imposé aucune restriction sanitaire. Alors, 30 ans après, quel est le véritable bilan humain de la catastrophe de Tchernobyl? Quel a été son impact en France? Les autorités françaises ont-elles fait preuve d'une légèreté coupable, pour reprendre l'expression? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités, Marie-Odile Berthella-Geffroy, ex-magistrate, coordinatrice du pôle santé à Paris, qui a traité les dossiers de victimes de Tchernobyl, et Yves Lenoir, président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus et auteur de la comédie atomique aux éditions La Découverte.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Très rapidement, Yves Lenoir, 30 ans après, quel est exactement le bilan humain de la catastrophe de Tchernobyl, s'il est possible de dresser un bilan définitif?
D'abord, je voudrais enchaîner avec le reportage sur Briansk, la région de Briansk, en Russie fédérative, hein, proche de Tchernobyl. Je suis allé à Novozoukov en 1990. Novozoukov, c'est le raïon le plus proche de la frontière biélorusse et ukrainienne de cette oblast de Briansk. Et là, le médecin responsable du district nous a montré ses statistiques médicales concernant essentiellement les enfants qui étaient déjà très atteints par les radiations que je mesurais moi dans la ville et qui étaient à un niveau extrêmement élevé. Pour l'anecdote, j'ai mangé 4000 becquerels en un seul repas. Là-bas.
Alors, expliquez-nous cette notion de becquerel, justement, parce qu'elle revient régulièrement. C'est l'unité pour mesurer la radioactivité.
Qui mesure une désintégration. Ensuite, reste à savoir le niveau d'énergie de cette désintégration. Mmh. Là, c'était 4000 becquerels de césium qui ont été mesurés, parce qu'on peut les mesurer. On est passé au fauteuil anthropogrammétrique. C'est un fauteuil, il y a un détecteur qui vous mesure la radioactivité de votre corps. Et il se trouvait qu'en un seul repas, on nous avait donné à manger 4000 becquerels, ce qui est pour une fois pas très grave, mais quand c'est tous les jours, on comprend pourquoi les enfants étaient si fatigués, si malades. Et je peux vous dire que les statistiques que nous avons pu observer, noter, sont sans commune mesure avec ce qu'on trouve dans le rapport que vous évoquez du bilan définitif.
Alors ce bilan définitif, il a été fait par l'ONU en 2006, et selon vous, il est incomplet. Pourquoi ?
Alors non, il n'est pas incomplet, il est carrément mensonger. Alors, d'abord, donner les chiffres de ce bilan. Ensuite, on pourra parler des raisons pour lesquelles il y a un déni des dangers de la radioactivité, et ce déni est d'autant plus nécessaire que les séquelles, en l'occurrence les séquelles sanitaires, sont plus grandes, puisqu'il faut, tout cacher. Bon, alors, le texte du Tchernobyl Forum, hein, c'est comme ça que s'appelait l'organisme mis en place dans le cadre de l'ONU en 2002 et qui a rendu son rapport en fait fin 2005. Hein, c'est fin 2005. Eh bien, c'est une cinquantaine de morts, dont une douzaine, c'est même pas sûr que ce soit les radiations qui en soient la cause, ce sont les termes exacts, 4000 cancers de la thyroïde, parce que ça, on peut pas les cacher. Autant de cancers de la thyroïde chez les enfants ne pouvaient avoir qu'une seule cause, les rayonnements de l'iode-131 relâchés par Tchernobyl. Il n'y a pas d'autre cause possible. Donc ceux-là, ils ont mis tous les projecteurs dessus, et on n'a parlé plus que d'iode. C'est ce qu'on fait d'ailleurs actuellement au Japon. On ne parle que de thyroïde. On n'a aucune information sur les maladies périnatales, sur l'état de santé des enfants. C'est le blackout total. Bon, donc ça, c'était le deuxième composante de ce déni. Et la troisième, c'est 4000 cancers dans les 50 prochaines années. C'est tellement peu par rapport à l'incidence normale, naturelle, pour d'autres causes des cancers, que ce sera non mesurable. Voilà ce que disait ce document. Et plus précisément, il spécifiait qu'aucune maladie infectieuse, aucune cataracte, aucune maladie cardiaque, etc., ne pouvait être causée par les radiations dans la population, et qu'il d'ailleurs, il n'y en avait aucune augmentation. Ce qui était en contradiction totale avec ce que nous avions noté dès 90 dans les cahiers des médecins responsables du rayon de Novozybkov. Donc son bilan, c'est 50 morts, circulés, il n'y a rien à voir.
Un bilan tronqué, donc. Oui. Alors, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine n'ont pas été les seuls pays touchés par la catastrophe de Tchernobyl. La France a également été survolée par le nuage radioactif. Et pour en connaître les conséquences, eh bien, direction la Corse, à près de 2000 kilomètres de Tchernobyl. Nous sommes en ligne avec le docteur Denis Fauconnier. Denis Fauconnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin en Corse, donc, et c'est vous qui avez révélé l'explosion des maladies de la thyroïde après Tchernobyl. Comment avez-vous fait le lien, justement, entre le nombre plus élevé des malades de la thyroïde et l'accident de Tchernobyl ?
Je suis médecin à la retraite, mais j'étais en activité avant 1986 et après 1986. Et dans ma clientèle, j'ai constaté une augmentation de certaines pathologies thyroïdiennes, c'est évident. Mais c'était prévisible. C'est sûr que j'y étais un peu plus attentif. On a travaillé, on a fait des prélèvements, des analyses, d'abord avec le SCPRI, puis avec la CRIRAD. Donc les dépôts au sol en césium, c'était de 2000 à 40 000 becquerels suivant les régions de Corse pour le césium 137, et de 40 000 à 400 000 becquerels d'iode 131 par mètre carré, et trois fois plus d'iode 132. Donc ça fait des doses très importantes. Le lait a souvent contenu, le lait de chèvre et de brebis, plus de 10 000 becquerels par litre de lait, c'est reconnu, et jusqu'à 100 000 becquerels par litre de lait sur la côte orientale. Surtout à cette époque de l'année, hein, parce que la production bat son plein, et vu la contamination du lait, les doses ont été considérables. Donc les normes, les recommandations, les limites annuelles des corporations ont été pulvérisées, vraiment il n'est pas étonnant que l'on ait eu des constatations sur les pathologies thyroïdiennes.
Mais justement, vous personnellement, quand est-ce que vous avez appris que le panache radioactif avait survolé la Corse ? À partir de quel moment est-ce que vous avez fait le lien ? Puisqu'on sait très bien que pendant plus de 12 jours, les services de l'État ont assuré à la population qu'elle ne risquait rien et n'a imposé aucune restriction sanitaire. On expliquait à l'époque que le nuage était arrêté à la frontière. Donc vous, à partir de quel moment est-ce que vous avez été mis au courant et à partir de quand est-ce que vous avez constaté les premières augmentations de maladies de la thyroïde ?
Comme tout le monde, on a entendu, surtout c'était Radio Monte Carlo qui annonçait le passage du nuage radioactif sur la principauté de Monaco. Mais j'avais des patients qui revenaient d'Italie au début du mois de mai 86. Ils étaient placardés dans les rues, surtout qu'il ne fallait pas consommer de produits frais, légumes frais, pas de salade et pas de produits laitiers frais. Donc c'était assez inquiétant. Bon, l'Italie, c'est pas loin de chez nous, hein. Un nuage qui venait là-bas, donc c'était évident que l'on ait quelque chose.
C'est ce qu'il aurait fallu faire, selon vous, en Corse également ?
Ah, bien sûr, même davantage, hein. Il aurait fallu même prendre des mesures de confinement, surtout pour les enfants. Les militaires américains basés à Pise ont pris des mesures de confinement. Donc il fallait, vu l'importance de la radioactivité dans le nuage, il fallait prendre des mesures de confinement pour les enfants. D'ailleurs, tous les radiomètres de l'île ont sonné. Donc on savait pertinemment, dès que le nuage est passé sur la Corse, qu'il y avait un problème. On a fait débrancher ces balises et on a caché après les prélèvements et qui ont montré que l'alimentation était contaminée. De toute façon, c'est un acte délibéré, hein. Le gouvernement savait, donc on a eu la preuve après les perquisitions, que l'alimentation corse était contaminée et n'a rien fait.
Vous pensez donc, que la France a fait preuve de légèreté ?
C'est plus grave que ça. c'est délibéré, c'est grave. La France connaissait, il y a des normes, des recommandations, des balises ont sonné, il y a eu des prélèvements qui ont montré des taux à 10 000 becquerels, donc c'était énorme. Dans le livre de médecine toxique nucléaire à l'usage des étudiants, le professeur Maurice Tubiana disait « Le lait de tous les jours des nourrissons ne doit pas dépasser 13,7 becquerels par litre de lait, sous-entendu pour ne pas dépasser une dose annuelle de 5000 becquerels par litre de lait. » Moi, j'avais des nourrissons élevés avec du lait de chèvre à 10 000 becquerels.
Comment vous expliquez que le professeur Pierre Pellerin, hein, qui est l'ancien patron du service de protection contre les rayonnements ionisants, il avait été soupçonné d'avoir minimisé l'ampleur de la radioactivité du nuage. Il a été mis en examen pour tromperie aggravée, mais il y a eu un non-lieu. Et selon le parquet général, les analyses scientifiques versées au dossier s'accordent pour établir que la catastrophe nucléaire de 86, donc, n'a pas eu de conséquences sanitaires mesurables en France et qu'aucun lien n'a été fait avec des maladies de la thyroïde. Vous pensez, vous, de cette décision?
Ce sont des conclusions lamentables. Le lien, il y est. On a la preuve. On a la preuve et on a la preuve que les services de l'État ont dissimulé des données, falsifié des données, entravé les recherches. C'est simple. Le premier indicateur, c'est l'hypothyroïdie néonatale. Il y a un dépistage systématique de l'hypothyroïdie néonatale qui se fait depuis 1975 en France. On a en 86 23 cas, alors que les 8 années précédentes, on avait 9 cas. Donc il y a un pic sur les hypothyroïdies néonatales en région PACA Corse, la région contaminée, comme le reste des Alpes et l'Alsace. La personne qui tient le registre de malformation génétique de l'enfant, qui est à Marseille, qui s'appelle Ségolène Aimé, s'aperçoit du pic, veut l'étudier. La hiérarchie l'en empêche. C'est le premier indicateur et on ne peut pas l'étudier. En haut lieu, on bloque. Quelque chose d'encore plus grave. Il y a le deuxième indicateur, ce sont les cancers de la thyroïde de l'enfant, ce qu'on a insisté précocement en Ukraine et Biélorussie. Il y a, en 1986, 7 registres régionaux pour les répertorier les cancers de l'enfant, dont le registre PACA Corse. En 1996, Annie Sugier, directrice de l'IPSN, fait une conférence de presse. Il y a un problème dans ce registre. En 3 ans, entre 1992 et 1994, on recense 14 cas, alors que l'on avait répertorié 3 cas en 8 ans avant 1991. Donc c'est un pic important. Quelques jours après, la Direction générale de la Santé corrige ce chiffre. Il dit il y a des erreurs. On étale les cas dans le temps. On efface le pic. La Direction générale de la Santé et les services de l'État s'engagent à apporter toutes les explications à cette correction. À ce jour, on n'a eu aucune correction. Et le registre des cancers de l'enfant s'est arrêté à cette date, alors que les 6 autres registres ont poursuivi leur travail. C'est d'une gravité extrême.
Bien écoutez, voilà. Merci infiniment, Denis Fauconnier. Je rappelle que vous êtes médecin aujourd'hui à la retraite, mais que c'est vous qui avez révélé l'explosion des maladies de la thyroïde après Tchernobyl. Très bonne journée en Corse. Merci.
Merci à vous.
Encore chaque jour, une mission, tout détruire. Les rayons gamma affolent ma chair, la chair est plus importante que l'eau. Et le plus important sûrement c'est de croire que l'on reviendra un jour. Alors si possible, tu m'en certains, c'est que sans doute, nous nous rejoindrons très vite.
C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl en France avec nos invités. Marie-Odile Berthelat-Geffroy, ancienne vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, et Yves Lenoir, président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus et auteur de La comédie atomique aux éditions La Découverte. Marie-Odile Berthelat-Geffroy, une réaction à ce que l'on vient d'entendre, le docteur Denis Fauconnier.
Oui, tout ce qu'il dit est exact. Je l'avais entendu comme témoin. Il m'avait bien expliqué ce qu'il avait fait, lui, comme prélèvement, dès le départ, qu'il avait envoyé à Monsieur Pellerin et qui a toujours dit qu'il ne les avait jamais reçus, des premiers jours. Parce que, il faut savoir que c'est vraiment les premiers jours qu'il faut protéger la population. Le lieu de 131, au bout de 8-10 jours, c'est terminé. Donc, c'était la Corse qui était la plus rapide parce que le SCPRI, lui, n'a pas fait d'analyse immédiate. Il a simplement demandé à ses correspondants dans toute la France, à côté des centres EDF, des prélèvements d'herbes, enfin les prélèvements habituels. Il prenait un lapin pour étudier les os, pour voir s'il avait été contaminé. Et il l'a fait tranquillement un mois après. Dans cette instruction que j'ai dirigée, on a obtenu vraiment beaucoup de documents. Tous les documents qu'il a reçus, M. Pellerin, et tous les documents qu'il a envoyés. Et jour par jour, on a reconstitué, dans l'instruction, on a reconstitué tout ce que l'État savait, puisqu'il représentait l'État, M. Pellerin, tout ce que l'État savait et ce qu'il n'a pas dit aux Français.
Alors, pour être très clair, justement, une enquête est ouverte fin 2001. C'est vous, Marie-Odile Berthelat-Geffroy, qui êtes chargée de l'instruction de l'enquête. Alors déjà, pourquoi une enquête si tardive? Première question. Et qu'est-ce qui ressort très concrètement de cette enquête qui va durer près de 10 ans?
Oui, alors tardive parce que les cancers de la thyroïde demandent un certain temps pour apparaître et ensuite que les victimes se rejoignent et en association, c'est ce qui s'est passé avec l'association des victimes de la thyroïde, donc qui se sont constituées partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Toutes ces affaires de santé publique que j'ai traitées n'ont jamais été ouvertes par le parquet, par le procureur de la République. Mais c'est une spécificité française de pouvoir s'adresser, malgré un classement sans suite ou malgré l'inaction du parquet, au doyen des juges d'instruction pour arriver à un juge d'instruction. C'est comme ça que toutes les affaires de santé publique que j'ai traitées sont arrivées sur mon bureau. Tchernobyl, c'est la même chose. Et donc, le temps que l'association trouve tous ses adhérents et se rapproche de la CRIRAD qui l'a bien aidé pour faire cette constitution de partie civile avec déjà beaucoup de documents.
Mais par exemple, quand en décembre 2005, on vous transmet un rapport et il se trouve que les mesures radioactives ont été occultées. Comment vous l'expliquez? Comment est-ce qu'on peut occulter ces données alors que vous êtes en charge du dossier? Ça paraît complètement ubuesque.
Ben écoutez, les deux experts avaient pour mission de savoir quelles étaient les vraies mesures et comment on les a restituées ou pas restituées aux Français. Et les conclusions sont très claires, rien n'a été restitué avant une dizaine de jours, c'est-à-dire après le délai qui était important pour protéger la population et pour, par exemple, que le bétail rentre dans les écuries, alors qu'ils broutaient l'herbe radioactive, parce qu'il y avait beaucoup de pluie en France. Et bon, il y avait... Les cartes ont été refaites. Les cartes ont été refaites par les experts avec les écarts de ce qui était dit par le SCPRI et de ce qui était réellement et ce qui a été analysé. Et c'était complètement différent.
C'est vrai, Yves Lenoir, que les données transmises par justement le service central de protection contre les rayons ionisants varient énormément entre 86 et 2005. Oui. Comment vous l'expliquez, ça ?
Écoutez, moi, j'ai fréquenté le professeur Pellerin dans un cadre officiel. Je lui ai posé la question de est-ce qu'il avait des statistiques médicales sur les travailleurs dans l'énergie atomique. Il m'a dit, mais pourquoi faire des recherches, on trouvera rien. C'est son état d'esprit. Il a toujours eu tendance à minimiser les risques. Et quand les gens... Et surtout, il avait le souci, la préoccupation de préserver le public de toute crainte des radiations. Et il disait, par exemple, il faut mettre les centrales nucléaires près des villes parce que si on les met loin, les gens vont croire qu'elles sont dangereuses. Vous voyez, il disait cela. Bon. Eh bien, il faut bien comprendre qu'avec cet état d'esprit-là, il était logique pour lui de cacher la réalité parce que la réalité, lui, il la pensait pas grave. Je pense que là, il était sincère. C'est un gars qui n'avait aucune crainte des niveaux élevés de radiation pour la population. Il était complètement intoxiqué par la propagande intérieure. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas que la vérité soit connue, parce que si la vérité avait été connue, alors, premièrement, évidemment, les gens se seraient inquiétés. Et puis, deuxièmement, même si elle est connue, et surtout si elle est connue en retard, eh bien, il y a une mise en cause du fait qu'elle n'a pas été dite. Or, sa mission, c'était de la dire.
Marie-Odile Berthelat-Geffroy, en 2011, donc, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a décidé de clore l'enquête. Tout s'est soldé par un non-lieu, finalement. Et vous-même, vous avez été dessaisi par la demande express de la Cour d'appel, ce qui est un cas rarissime, soi-disant. Un lien de cause à effet, comment vous l'expliquez ? Expliquez-nous très précisément ce qui s'est passé, là.
Concernant le non-lieu, Monsieur Pellerin et son avocat faisaient des demandes de non-lieu assez régulièrement. C'était toujours refusé. Il y a eu un changement dans la présidence de la chambre de l'instruction qui est à la cour d'appel. Voilà. Donc, à partir de ce changement, j'ai dans beaucoup de cas, en tout cas dans tous mes dossiers de santé publique, obtenu des non-lieux à la chambre de l'instruction et j'ai été dessaisie. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Mais la particularité de ce non-lieu, c'est que le parquet qui était du côté de Monsieur Pellerin a demandé le non-lieu cette fois-ci. Après 3 ou 4 tentatives de l'avocat de Monsieur Pellerin, il a demandé le non-lieu alors que Monsieur Pellerin avait été mis en examen, non pas en blessure involontaire, puisque je ne pouvais pas faire le lien de causalité entre les cancers de la thyroïde, surtout ceux des enfants, et le nucléaire. Il y avait des cancers de la thyroïde avant le passage du nuage, et les registres de cancers de la thyroïde, j'en ai retrouvé 2. Donc, on ne pouvait pas faire la différence. Et puis, bon, il n'y a pas de signature nucléaire. Le lien de causalité ne pouvait pas être fait. Il a été mis en examen pour tromperie aggravée de la population. Donc, ça pouvait tenir. J'avais exactement les chiffres réels et les chiffres qui ont été donnés très tardivement d'ailleurs par le SCPRI, et c'était vraiment une différence très très grande. Donc il y a eu une omerta.
Est-ce que l'affaire du sang contaminé, dont vous étiez en charge également, a pu jouer ? Je m'explique, 3 ministres devant la justice, c'était pas très glorieux. Est-ce que du coup on a voulu éviter cela pour l'affaire de Tchernobyl ? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'ancienne juge d'instruction, justement ?
C'est tout à fait possible. Je ressentais bien le manque de moyens que j'avais personnellement. Je ne me donnais pas les moyens en policier spécialisé, en expert. Je trouvais moi-même des experts qui n'étaient pas souvent des experts judiciaires. Il y avait une espèce de crainte, effectivement, parce que toutes ces affaires, les parties civiles, les victimes, désignent comme responsables responsables, évidemment, l'administration et l'État. Et avec tous les documents que j'avais retrouvés en perquisition, parce que les pouvoirs d'un juge d'instruction dans un dossier de santé publique sont les mêmes que dans une affaire criminelle, on a vraiment beaucoup de pouvoirs. J'avais été faire des perquisitions dans tous les ministères et j'avais tous les documents. Mettant en cause, non pas les ministres, mais bon, ils n'avaient peut-être pas cette information aussi précise, puisque c'est M. Pellerin qui a pris sur lui d'être dans les médias et d'être celui qui...
Il a couvert les ministres, tout simplement.
Il les a couverts. Il ne m'a jamais dit qu'il avait eu des ordres.
Il faut bien savoir que le SCPRI était sous tutelle du ministère de la Santé. C'était lui qui disait au ministère de la Santé la réalité radiologique du pays. Donc le ministère n'avait pas d'autre information que la sienne, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a une véritable croisade pour protéger Pellerin, dans tous les milieux officiels. Oui. Une véritable croisade. Il était protégé de partout. Même après sa mort, on a encore vu la croisade continuer. Non, c'est effrayant de voir à quel point il se serre les coudes.
Dans tous ces dossiers de santé publique, effectivement, il y a les lobbies, comme dit M. Lenoir. Il y a les lobbies, les lanceurs d'alerte, comme M. Fauconnier, qui ne sont pas entendus, et les soi-disant experts qui donnent les informations pour les décisionnaires. C'est ces trois choses qu'on retrouve dans tous les dossiers de santé publique.
Et c'est le cas pour Tchernobyl.
Et c'est tout à fait le cas pour Tchernobyl.
Merci infiniment à tous les deux d'être passés dans ce studio. Marie-Odile Berthelat-Geffroy, je rappelle que vous êtes ex-magistrate coordinatrice du pôle santé à Paris et que vous avez traité les dossiers de victimes de Tchernobyl. Yves Lenoir, vous êtes président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus et auteur de la comédie atomique aux éditions La Découverte. C'est la fin de cette émission qui était réalisée par Jérémy Besset. Bonne journée à tous et à demain, à suivre un nouveau journal sur la Radio du Monde.